Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Notre expérience du froid se limite souvent à quelque chose de quotidien et de trivial, qui n'induit aucune réflexion. Le froid peut provoquer un inconfort, voire la maladie, mais on fait très rarement l'expérience du froid extrême. Pourtant, les effets biologiques du froid sur les organismes vivants sont d'une diversité exceptionnelle. Le froid est avant tout un agent de ralentissement des organes vitaux. Le rythme cardiaque baisse, la respiration ralentit, et le fonctionnement global de l'être vivant est profondément altéré. On n'a pas attendu la science moderne pour s'intéresser à ces interactions entre le froid et le vivant. Au XVIIIe siècle, par exemple, le biologiste italien Lazzaro Spallanzini menait des expériences autour de la conservation de la semence de grenouille dans le froid. Au XIXe siècle, le vétérinaire André Sanson découvre lors de ses expériences que la reine abeille ne pond que des œufs vierges, donc mâles, lorsqu'elle évolue dans un milieu en dessous d'une certaine température. Ce sont finalement des centaines d'expériences aux quatre coins du monde qui révèlent que le froid affecte non seulement le fonctionnement profond des organismes vivants, mais a une influence conséquente sur l'évolution de certaines espèces. Dans ce numéro des grandes conférences, c'est le biologiste, écrivain et historien des sciences Jean Rostand qui explique, avec la pédagogie qui le caractérise, les effets biologiques concrets du froid sur les êtres vivants. L'occasion de découvrir des siècles de savoir résumé en une demi-heure d'une conférence menée d'une main de maître et diffusée pour la première fois le 3 novembre 1958 sur France 3 Nationale.
Les effets biologiques du froid. Tel est le thème de cette conférence et il n'en est guère de plus vaste. Car les effets des basses températures sur la matière vivante sont, comme nous allons le voir, d'une extraordinaire, d'une prodigieuse diversité. Et on ne saurait les passer en revue sans effleurer tous les chapitres fondamentaux de la biologie, depuis la conservation de la vie jusqu'au problème du vieillissement, depuis la parthénogenèse ou génération sans père jusqu'à la variation des êtres. Et c'est même là, à mon sens, que tient la signification toute spéciale de cet exposé. Signification qui dépasse même un peu le plan de la science et qui rejoint presque le plan philosophique, c'est de tâcher de faire voir comment, par la mise en œuvre d'un seul et même agent, d'un agent de l'ordre physique, et en somme relativement simple, le froid, on peut, à condition de le manier convenablement, obtenir une somme, une gamme aussi étendue de résultats. Nul n'ignore que la vitesse des réactions chimiques varie en fonction de la température. Et selon une loi classique, fameuse, la loi de Van't'Hoff. Pour un abaissement de 10 degrés environ, un grand nombre de réactions chimiques présentent un ralentissement qui va du double au triple. Une réaction sera 2,5 fois plus lente à 10 degrés qu'à 20 degrés. Dans le domaine des êtres vivants, une foule de phénomènes sont conditionnés par des réactions chimiques, ce qui n'implique d'ailleurs aucune hypothèse quant à la signification, quant à la nature de la vie. Tout le monde est d'accord sur le fait que la vie a un conditionnement chimique. Par conséquent, si vous ralentissez les réactions chimiques par le froid, vous ralentirez également l'activité vitale. Par exemple, un cœur de tortue se contractera 10 fois par minute à 10 degrés et 20 fois à 10 degrés, 48 fois à 30 degrés. On trouverait des chiffres analogues, ou du moins relativement analogues, pour le nombre de certaines contractions musculaires chez d'autres animaux, pour la production du gaz carbonique, pour le développement des œufs de grenouille, pour la vitesse de marche des fourmis. C'est donc une loi extrêmement générale qui couvre à peu près le champ des phénomènes vitaux. Naturellement, cette loi ne joue que pour un certain espace de température. Il est évident que si vous allez trop bas, vous allez bloquer les phénomènes, et de même, si vous allez trop haut, vous les empêcherez également par un excès de chaleur. Ces effets de retard, qui sont les effets les plus classiques, les plus connus du froid, ces effets qu'on peut appeler effets dilatoires, effets modérateurs, effets de freinage, sont fréquemment utilisés quand on veut, par exemple, retarder l'évolution d'un animal, retarder l'évolution d'une culture de microbes ou d'un fusoir. Ils permettent aussi, quelquefois, de prolonger la vie d'un tissu de cellules séparées du corps. Ainsi, par exemple, on mettra en glacière, à une température voisine de zéro, 4 ou 5 degrés au-dessus de zéro, du sang qu'on voudra utiliser à une transfusion, un greffon, qu'on ne pourra pas incorporer sur le champ à l'organisme receveur. On le met là en attente, en survie, en attendant de l'utiliser. De même, on peut mettre de côté de la semence qu'on ne peut pas utiliser tout de suite à l'insémination artificielle. On place la semence à 5 degrés, par exemple, et elle peut résister plusieurs jours à cette température, alors qu'elle n'aurait résisté que quelques heures à température ordinaire. C'est au grand physiologiste italien Spallanzani que l'on doit, vers 1780, les premières expériences à ce sujet. Il le travaillait sur la semence de grenouilles et de crapauds. Et il avait remarqué qu'en mettant la semence dans une glacière, voyez-vous, il y avait déjà des glacières au XVIIIe siècle, eh bien, en mettant la semence dans une glacière, eh bien, cette semence gardait plus longtemps son pouvoir fécondant. Comme nous le verrons tout à l'heure, cette technique de prolongation de la vie séminale par le froid a été amplement développé en plaçant de la semence dans une bouteille thermos, par exemple, qui est une petite glacière portative, et en expédiant cette bouteille par avion, on a réalisé déjà des inséminations artificielles. On a pu croiser des bestiaux de différents pays, de différentes régions. On a réalisé des fécondations d'un continent à l'autre. C'est ce qu'on appelle la télégenèse. Et on peut parfaitement imaginer qu'elle soit appliquée à l'espèce humaine. Elle pourrait être appliquée même entre deux époux qui feraient, comme on l'a dit, continent à part. Et on peut même penser que dans ce cas-là, les juristes se trouvent un peu en défaut, car il y a un certain article du Code vital, du Code civil, au terme duquel un mari a droit de désavouer un enfant conçu durant qu'il est éloigné de sa femme. Eh bien, depuis qu'on peut faire ces télégenèses, cet article du Code n'est plus valable, n'est plus entièrement valable. Becquerel, en tenant compte de la loi de Ventoff, faisait le calcul suivant. Un être qui ne vit qu'un an, à 10 degrés, entre 10 degrés et 20 degrés, pourrait, s'il était conservé à moins 270 degrés, pourrait vivre 71 trillions 300 milliards d'années. Si l'on arrivait au zéro absolu, on arriverait véritablement à un état de stabilisation complète. On aurait réalisé l'immortalité par le froid. Naturellement, ce n'est là qu'une déduction théorique, car personne pour l'instant ne peut dire combien de temps, sans compromettre la reprise de vitalité, on pourrait maintenir les organismes aux abords du zéro absolu. L'expérience de très longue durée n'a pas encore été faite. Dès 1966, le physiologiste italien Mantegazza montre que la semence humaine peut supporter pendant plusieurs jours une température de moins 15 degrés. Et, en véritable anticipateur, il annonce que dans l'avenir, on se servira de semences congelées. Par exemple, pour donner, dit-il, un enfant posthume à un soldat tombé sur le champ de bataille. Les résultats de congélation de la semence sont restés inconstants jusqu'au moment où l'on a trouvé certaines substances spéciales qui permettent de protéger les cellules contre l'action des basses températures. On a d'abord utilisé les sucres, par exemple l'évulose, qui permet de soumettre certaines semences sans les tuer à des températures de la neige carbonique, moins 79 degrés. Puis, on a révélé, en 1946, l'effet protecteur de la glycérine. J'ai fait à ce sujet des expériences sur le sperme de grenouille qui ont montré en effet que la simple glycérine permettait de protéger contre des températures inférieures à celles de la congélation. Le sperme de grenouille ne résiste jamais à la congélation. Si on ajoute un peu de glycérine, ce sperme peut résister 2 ou 3 semaines à la prise en glace. Une méthode de la glycérine s'est donc développée par la suite et c'est surtout l'école anglaise de Parkes qui a développé très largement et magnifiquement, il faut bien le dire, cette méthode. Ils ont utilisé des températures très basses, sont descendus au moins à moins 79 degrés et même plus bas encore. Ils ont étendu ces résultats aux oiseaux, aux mammifères et ils ont fait des fécondations avec ces semences frigorifiées. Les résultats ont été absolument normaux. Par conséquent, théoriquement, on peut garder à moins 79 degrés des spermes de bestiaux et faire des fécondations artificielles tout à fait normales. Cette méthode a été appliquée en 1953 à l'homme par 2 chercheurs de l'État d'Iowa, Bund et Sherman. Du sperme humain, glycériné au 10e, a été conservé pendant plus d'un mois, à moins 79 degrés. Après congélation, il fut employé à inséminer 3 femmes, qui toutes 3 devinrent mères et accouchèrent d'enfants normaux. On a pu de la sorte conserver bien d'autres cellules que les cellules séminales, les cellules sanguines, des cellules glandulaires, des cellules ovariennes, des tissus épithéliaux, etc. De même, le sang total peut être conservé maintenant par la glycérine pendant plusieurs mois. Et cela est très utile, évidemment, pour les transfusions. Il n'est pas même jusqu'à la fonction organe qui ne puisse être conservée par cette méthode de la glycérine. Et tout récemment, M. Louis Ray, dans une thèse qu'il a très brillamment soutenue il y a quelques semaines, a montré qu'on pouvait, justement en imprégnant des cœurs de poulet par la glycérine, les soumettre à des températures de l'ordre de moins 79 degrés et même plus bas encore, et que ces cœurs, après décongélation, pouvaient reprendre leur activité et présenter des contractions cardiaques tout à fait régulières, tout à fait normales. C'est là un résultat extrêmement intéressant et qui marque une nouvelle étape dans l'histoire de la conservation de la vie par le froid. Nous avons donc vu la possibilité de conserver les tissus, les cellules. Nous voyons maintenant la possibilité de conserver des organes entiers. Marquons rapidement quelques-unes des conséquences un peu étranges qui, dès maintenant, se laissent entrevoir pour notre espèce. Réalisant la prédiction de Mantegazza, une jeune biologiste anglo-saxonne aurait, paraît-il, dû à la méthode du glycérol, d'avoir donné 2 enfants posthumes à un mari décédé dans un accident d'auto. Ces postérités d'outre-tombe bousculent, vous le comprenez, toutes les notions traditionnelle de parenté. Et par exemple, on peut imaginer qu'avec des semences conservées pendant 1 siècle, eh bien, on pourrait assister à la naissance de son arrière-grand-oncle. La procréation, jusqu'ici réservée aux seuls vifs, est devenue maintenant accessible aux défunts. Et vous comprenez bien qu'il en résulte une foule de scrupules juridiques qui commencent déjà à être examiné par les juristes. Et justement, je vais vous lire la déclaration d'un juriste à qui j'avais posé justement le cas de cette jeune femme. Que ce cas soit vrai ou faux, car je n'ai pas le témoignage absolument scientifique sur le cas de cette jeune femme, mais ce cas, en tout cas, peut se présenter, il est possible scientifiquement. Donc il est intéressant de savoir ce que dit le droit à ce sujet. Et voilà ce que m'a dit l'expert en droit. Les malheureux juristes se trouveraient là devant une situation extrêmement grave. D'abord, la légitimité de l'opération qui rend un homme père hors de son consentement, et pour cause. Le cas serait encore plus grave si la semence avait été utilisée par une autre que par sa femme légitime, car on peut arriver à un cas d'adultère posthume. Situation légale des enfants. Nés après le décès du mari de leur mère, ils sont enfants naturels. Le mariage a été dissous par la mort du conjoint et il leur sera impossible de prouver la filiation avec le prétendu père. En admettant qu'avec des contrôles sérieux, lors du prélèvement de la semence, on puisse arriver à leur donner légalement la parenté avec le père. Alors, c'est au plan des successions que se posera le problème. Il y a deux règles de base. La succession d'un individu s'ouvre à son décès et se règle rapidement. Les enfants succèdent tous et toujours à leurs parents. Or, dans le cas de la paternité posthume, des enfants vont naître une fois que la succession du père est réglée. Faut-il rouvrir et modifier la dévolution de biens ? Va-t-on sacrifier le second principe qui est fondamental ? Comme l'on imagine, conclut notre juriste, que nombre de couples animés des mêmes sentiments que cette mère pourraient mettre de la semence en réserve, je crois que le problème doit être posé et résolu clairement. Dernière question qui se pose et que peut-être certains d'entre vous se posent déjà, pourra-t-on conserver des êtres entiers ? À proportion que la science collectionne des succès, elle devient plus gourmande. Et ses jeunes ambitions rejoignent de très vieux rêves. Vous savez que déjà, en 1766, le physiologiste Hunter avait songé à prolonger par le froid des êtres humains. Il avait même cru qu'il allait faire fortune avec ce procédé. Il écrivait, « Je pense que si un homme voulait donner les 10 dernières années de sa vie à une alternance de sommeil et d'activité, on pourrait le faire vivre pendant 1000 ans. En le décongelant tous les 100 ans, il apprendrait ce qui est advenu pendant sa torpeur. Comme d'autres inventeurs, j'avais cru faire fortune, mais l'expérience me déçut. Quelle expérience ? Eh bien voilà, Hunter avait congelé 2 carpes, et les carpes sont mortes. Alors il n'a pas poussé plus loin ses recherches. Cette idée était déjà venu à l'esprit du grand Réaumur, vous savez, le grand entomologiste français qui vivait au XVIIIe siècle. Lui aussi, il avait fait des expériences sur les chrysalides et il avait vu qu'on pouvait prolonger la vie de l'insecte, la vie du papillon, en mettant les chrysalides, non pas dans des glacières, car ils ne se servaient pas de glacières, ils n'en avaient pas beaucoup à ce moment, ils les avaient mis simplement dans sa cave. Et il s'était demandé, après tout, si on ne pourrait pas mettre des hommes en cave aussi. Et voilà ce qu'il disait également, je vous lis son passage qui est amusant. « Quelqu'un qui a pu se promettre de vivre pendant 80 ans saisirait comme une idée agréable de durer pendant 10 à 12 siècles. Quelqu'un qui ne reverrait le monde que de siècle en siècle trouverait des spectacles plus variés que nous, soit dans le physique, soit dans le moral, et la face de la Terre lui ferait voir des changements, des progrès des sciences et des arts. » Mais Réaumur, d'ailleurs, ne laissez pas de voir les inconvénients de cette mise en cave, cette mise en conserve. Est-il bien sûr, ajoutait-il malicieusement, que les hommes en fissent usage ? On ferait alors des réflexions qu'on ne fait pas maintenant. Qui oserait se plonger dans un sommeil d'une longue suite d'années, pendant lequel on craindrait de périr par des accidents, par des incendies, des inondations ? Des suites de guerre par l'avidité des héritiers. Voyez-vous, Réaumur pensait à tout. Il est amusant de se rappeler que le grand Claude Bernard avait lui aussi été taquiné et tourmenté par des rêves analogues. C'est un rêve, vous savez, qui s'est présenté à l'esprit de beaucoup de savants, que ce rêve de la conservation de la vie. Il est même probable que ça touche à un certain complexe assez profond. On a prétendu qu'on pouvait congeler des grenouilles, des crapauds. En réalité, ce n'est pas vrai. Quand l'animal est complètement durci, comme du verre, eh bien, on ne peut pas le ramener à la vie. Il n'est pas même l'animal à sang froid, le poisson ou la grenouille ne supportent pas la congélation profonde. Chez les mammifères, un physiologiste yougoslave, Andjus, est arrivé à abaisser la température interne, la température centrale, au-dessous de zéro. Mais c'est un phénomène de surfusion, évidemment, il n'y a pas de congélation, il n'y a pas de prise en glace du sang. Enfin, il est déjà intéressant de penser qu'on peut mettre un animal à moins 4 degrés et le faire revivre sans aucun dommage. Est-ce qu'on trouvera demain une substance dénué de toxicité. Évidemment, on pourrait penser à la glycérine, mais évidemment, on ne va pas imprégner un organisme entier de glycérine. On ne va pas faire des injections intraveineuses de glycérine. On pourrait peut-être trouver une substance, alors dénuée de toute toxicité et de tout inconvénient, et qui protège l'organisme entier contre le froid. Ce n'est pas impossible. Il y a des raisons très sérieuses, écrit M. Ray, de penser que l'on pourra, grâce aux recherches futures, trouver un heureux état d'équilibre entre la congélation préalable, le choix des liquides protecteurs, la température de dessiccation, le degré de déshydratation à atteindre et le processus de reconstitution pour que soit possible la conservation de la vie. On aurait alors pu combler le vide qui sépare actuellement les organismes supérieurs des tardigrades ou des rotifères, et la solution aurait été trouvée qui permettrait de suspendre l'activité vitale pour des temps peut-être indéfinis. Évidemment, il est tout de même curieux de penser qu'en 1958, un véritable savant peut se permettre d'écrire des lignes pareilles. Ceci nous amène aux effets tératogènes du froid. Ils ne sont pas agréables, si vous voulez, ces effets, mais ils sont quand même très intéressants pour le biologiste. On peut, si on soumet des œufs de poisson, des œufs de batracien à des froids assez intenses, on peut produire des embryons doubles, des monstres doubles. On peut faire de la gémellité, des poissons jumeaux, des alvins jumeaux, en les traitant par l'eau glacée. Chez le poulet, en refroidissant l'embryon, on fait des animaux qui ont des malformations des membres, etc., etc. Le froid exerce même, toujours intéressant de voir que la plupart des agents en biologie peuvent faire le contraire de ce qu'ils font. Les effets inverses, les effets qu'on appelle paradoxaux, sont presque toujours très fréquents en biologie. Eh bien, le froid, qui est un agent tératogène, est aussi un agent anti-tératogène. Vous pouvez, avec le froid, empêcher une anomalie d'apparaître. Une anomalie qui est héréditaire, qui aurait dû apparaître chez un individu, vous refroidissez l'embryon, vous allez empêcher l'anomalie d'apparaître. Encore un chapitre intéressant de l'action du froid, c'est la modification des caractères organiques. Déjà, Weismann, il y a déjà près de 100 ans, soumettait des chrysalides à un froid prolongé. Eh bien, il voyait que les papillons étaient modifiés, ils étaient généralement plus sombres, ils avaient des taches d'une couleur différente. On a fait un très grand nombre d'expériences sur la variation des caractères organiques par le froid. Chez la mouche du vinaigre, qui a été, vous le savez, tellement employé par les biologistes, eh bien, on peut, par le froid, modifier la longueur des ailes, modifier le nombre des facettes dans les yeux, etc., etc. Nous avons donc là un agent extrêmement intéressant au point de vue de la modification des caractères phénotypiques, comme on dit, c'est-à-dire des caractères de l'organisme qui ne sont pas héréditaires. On peut même modifier les caractères sexuels. Chez le papillon Limantria dispare, qui est un papillon très intéressant pour les biologistes parce qu'il a un dimorphisme sexuel extrêmement accusé, eh bien, en refroidissant fortement les chrysalides, on fait des intersexués, c'est-à-dire des animaux qui présentent un mélange de caractère mâle et de caractère femelle. Enfin, par le froid, on peut, chez certains animaux comme l'hydre, déterminer le passage d'une génération asexuée à la génération sexuée. Chez les pucerons, le passage de la parthénogenèse à la sexualité. Chez les batraciens, on peut par le froid bloquer l'animal au stade larvaire et obtenir ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire la persistance des caractères larvaires chez un animal grand et presque mûr du point de vue génital. Enfin, pour clore cette énumération, citons encore une expérience amusante qui n'est pas très ancienne et qui consiste à disséminer, le mot n'est pas français je crois, mais enfin on peut le faire, à disséminer des insectes au moyen du froid. On prend des mouches de vinaigre, des mouches qui ont été fécondées et qui par conséquent portent dans leur réceptacle séminal des spermatozoïdes, des mouches qui devraient faire des œufs fécondés, on les met à la glacière. Elles ne pondent que des œufs inféconds. Pourquoi ? Parce que le froid a détruit les spermatozoïdes dans le réceptacle séminal, alors qu'il a respecté les ovules. Et chose curieuse, ces expérimentateurs qui sont, je crois, américains ou anglais, je ne me rappelle plus, ont reproduit une très vieille expérience d'un Français qui s'appelait Sanson et dont on parle peu. En 1878, Sanson avait déjà remarqué qu'une reine d'abeilles, quand elle était gelée, ne procréait plus que des mâles. Pourquoi ? Parce que les spermatozoïdes ont été détruits par le gel, par le froid, et dans ce cas-là, elle ne fait plus que des œufs vierges, et vous savez que chez l'abeille, les œufs vierges donnent des mâles. Voilà encore une expérience très amusante. Une dernière question se pose maintenant. Cet agent que nous voyons, cet agent si puissant, si efficace, si varié, quel en est le rôle dans la nature ? Je serai là, je vous le dis tout de suite. Le sujet d'une autre conférence. Et on se bornera à indiquer que peut-être le froid a joué un rôle dans l'évolution des espèces. D'abord, dans la formation de certaines races. Vous savez qu'il y a des races polyploïdes, il y a des espèces polyploïdes, c'est-à-dire des espèces qui ont plusieurs stocks de chromosomes. Eh bien, on peut penser que le froid a agi directement pour créer ces polyploïdes. Il a même agi aussi probablement indirectement parce qu'il se trouve que les polyploïdes, c'est d'ailleurs même assez curieux, les polyploïdes sont formés par le froid et ils sont plus résistants au froid. Donc par conséquent, le froid a dû agir comme procédé de sélection différentielle. Il a permis de vivre à des espèces, à des races polyploïdes, alors qu'il ne permettait pas de vivre aux races simplement diploïdes. Les races polyploïdes sont souvent des races frigo-résistantes. Le froid a peut-être même joué un rôle beaucoup plus ample, plus vaste envergure, et il a peut-être compté comme un grand facteur d'évolution. Dans la mesure où il conférait aux animaux à température constante, aux mammifères, à ces mammifères qui portent en eux, pour ainsi dire, une petite étuve, puisqu'ils règlent leur température eux-mêmes, eh bien, il a conféré à ces animaux à température constante, il a conféré la primauté sur les animaux à température variable, comme les reptiles. Je ne vous dis pas que ce soit exactement le froid qui ait déterminé quand même cette suprématie des animaux à sang chaud, comme on dit, sur les animaux à sang froid, mais cela a dû y contribuer. Et si les climats fussent restés cléments, si la température de la Terre avait toujours été extrêmement douce, eh bien il est possible que les reptiles aient continué à dominer sur la vie et que la bête à mamelles n'ait pas supplanté la bête à écailles. Autant que fils du soleil, nous sommes dans une certaine mesure fils du froid. Nous le sommes d'autant plus que l'évolution même de l'homme, à partir des primates, a sans doute été favorisée par l'abaissement de température à la surface terrestre. Le froid, en raréfiant les pâturages, en faisant reculer les forêts, ces réservoirs de gibier, a dû aiguillonner la lutte pour l'existence, a dû fouetter l'inventivité humaine. On a pu dire, sans période glaciaire, pas d'humanité. Je ne prends pas ce témoignage à mon compte, je ne suis pas paléontologiste, mais enfin, le paléontologiste Saint-Saëns a écrit « Il se pourrait que l'invention de l'homme soit la riposte de l'évolution biologique à l'attaque des glaces. » Et ceci, quand même, devait être rappelé dans une causerie où on parle des effets biologiques du froid. Enfin, si, laissant ce ténébreux passé, nous jetons un regard vers l'avenir, nous allons nous demander avec Becquerel si en cas de cataclysme cosmique, la vie terrestre ne pourrait pas devoir au froid d'être maintenue et sauvée. Paul Becquerel, ce maître du froid, ce grand frigoriste, qui était un peu aussi un poète, imaginait, comme Anatole France dans une très belle page du Jardin d'Épicure, il imaginait la Terre devenu astre mort et continuant de tourner en logeant dans son sein glacé des organismes dont la vie serait temporairement suspendue. Et ces organismes n'attendraient, disait Becquerel, pour repartir vers de nouveaux destins que leur retour de conditions thermiques moins rigoureuses. Là serait, à coup sûr, la plus grandiose des applications biologiques du froid. Il en est encore une, et qui n'est pas de moindre envergure. De l'extraordinaire résistance des êtres vivants aux basses températures, Becquerel se plaisait à tirer cette anticipation que des animalcules mis en état de vie suspendue pourraient, s'ils étaient mis à l'abri des radiations cosmiques, supporter sans périr le vide glacial des espaces interstellaires. Et donc, transportés par des projectiles appropriés, il pourrait aller semer sur d'autres mondes des formes d'existence terrestre. Becquerel, hélas, est mort, sans avoir connu les Spoutniks et les explorateurs. S'il eût connu ces prodigieux voyageurs de l'espace, c'est avec encore plus de confiance et d'enthousiasme qu'il nous eût présenté son programme de panspermie interastrale. La biologie du froid est, comme toute science, l'œuvre de la coopération internationale. Parmi ces grands noms, il faudrait citer auprès de celui de Becquerel pour la France, ceux de Basile Luyet pour l'Amérique, de Parks pour l'Angleterre, de Viaja, d'Andjus pour la Yougoslavie, de Bakhmetiev, de Sinitsyn pour la Russie. Elle est loin d'être arrivée, cette science, à son terme, et nous pouvons en attendre encore bien des merveilles. Le froid n'a pas fini d'étonner les biologistes et de se montrer créateur de phénomènes. Ajouterai-je que grâce à la jeune équipe française groupée autour de M. Louis Rey, nous sommes en droit d'espérer que notre pays continuera de tenir un rang élevé dans ces études qui doivent non seulement aider au progrès de la médecine et de la chirurgie, mais augmenter notre pouvoir sur les phénomènes vitaux et peut-être même nous faire accéder en ce royaume fantastique où nous a précédé la libre imagination des rêveurs et des romanciers.
C'était Les effets biologiques du froid, un numéro des grandes conférences de Jean Roustan, diffusé pour la première fois le 3 novembre 1958 sur France 3 Nationale.